Bonjour, bienvenue dans le podcast Communication de campagne. Je suis Gaëlle Lettonnet, sa fondatrice. On se retrouve une fois par mois pour parler de ruralité. Comment faire de la ruralité un allié de développement ? Développement économique, mais aussi social, sociétal, environnemental et culturel. Hors des grandes villes, des grandes agglomérations. Pour cela, je vais à la rencontre de celles et ceux qui font de la ruralité une force. Ensemble, on aborde les solutions pour créer du lien, désenclaver pour faire société. Mon intention avec ce podcast est de découvrir des réalisations inspirantes qui ont fait du territoire rural un facteur clé de leur succès. Je les interroge sur l'angle de la communication, qui fait partie des conditions essentielles pour la réussite d'un projet. Si tu apprécies ma démarche, tu peux en parler autour de toi, partager, écrire un commentaire ou donner une note. Si tu veux me contacter, écris-moi à comdecampagne@gmail.com. Vivre à la campagne n'est pas toujours synonyme de rencontre, de connaissance de ses voisins, d'habitants de la même localité. Les mots pont pour aller vers l'autre, pour se parler et pour se rencontrer, l'écrit pour accompagner l'oral, lier connaissance, peut-être un début d'une belle amitié, en tout cas un moment partagé. C'est ce que propose Gaëlle Lanier avec ses ateliers d'écriture créative et de rédaction de biographies de vie ou d'histoires à partager. Le jeu de l'écriture avec des stylos à couleurs multiples et du papier de toute taille, de toute matière et couleur. C'est tracer des univers burlesques, poétiques, improbables, pour surprendre, faire rire, créer de la complicité. Créer du lien et se reconnaître dans cet autre, cet humain qui partage forcément trois points communs avec soi. La curiosité de cet atelier d'écriture créative, l'envie de partager un temps en société, l'envie de partager un temps en société et le goût de la campagne, de la ruralité, des espaces, de la temporalité, le goût des autres, pour Gaëlle, se dirait plutôt les cris des autres, un écrit de ralliement, un écrit de présence, un écrit d'existence, une crise de larmes, une crise de rire, de lâcher prise, d'altérité. Une photo, un livre, une œuvre d'art, un thème proposé, et la magie s'opère invisible dans l'atelier, reliée par des pleins et des déliés, des inconnus ou de vagues connaissances, apprendre à se connaître mieux, à se découvrir un peu, à s'apprécier. Les mots font l'émotion, par surprise parfois, au moment où l'on ne s'y attend pas, libérés, instantanés. Rouges aux joues, yeux mouillés, rires éclatants, un précieux cadeau, une part d'humanité. Au carrefour entre social, sociétal et culture, en toute simplicité. Quant à Gaëlle, vous le constaterez rapidement, je peux dire d'elle qu'elle est une femme pétillante, généreuse par son écoute et sa bonne humeur, très appréciée en ces temps compliqués. À son contact, on se sent tout de suite à l'aise, acceptée. Elle aime aller à la rencontre des autres et transmettre son goût pour les mots qu'elle a depuis très longtemps et qu'elle propose maintenant à ses compères d'atelier. Les mots font l'école buissonnière, à travers champs, vers tendres ondoyants, avec Gaëlle Lanier. Et c'est tout de suite. Allez. Gaëlle, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Eh bien, je vais bien. Je suis contente de cette rencontre et de cette discussion à venir.
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mon invité de décrire le lieu où nous sommes. Peux-tu nous donner quelques informations sur l'endroit où nous enregistrons ce podcast ?
Alors, nous sommes à mon domicile, dans une véranda qui donne sur un champ d'abord, et puis derrière sur le village du Revermont, avec un peu plus loin le château de Tréfort et l'église de Tréfort qui domine au loin. Voilà, un joli paysage.
Donc, nous sommes sur la commune de Val-Revermont, dans le département de l'Ain. Qui a regroupé il y a quelques années trois petites communes, à savoir Tréfort, Cuisia et Précia. Donc, ce regroupement parle aussi de la ruralité, du fait qu'en se regroupant, on est un peu plus fort pour proposer plus de services aux habitants. Alors, Yaël, peux-tu nous présenter l'atelier du porte-plume ?
Alors, l'atelier du porte-plume, c'est ma petite entreprise que j'ai créée en mars 2022, accompagnée par une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Essain et qui est basée à Bourg-en-Bresse. C'est une reconversion professionnelle. J'avais exercé auparavant le métier de journaliste pendant 25 ans jusqu'en 2020, puis j'ai occupé un poste de bibliothécaire dans la médiathèque de Tréfort. Et c'est pendant ce temps-là que l'idée est venue de me former à l'animation d'ateliers d'écriture que j'avais découvert peu de temps avant, pendant le confinement, lors d'ateliers d'écriture en distanciel, depuis Paris, puis La Réunion d'ailleurs, et moi dans ma petite maison de Tréfort, j'ai pu participer à cet atelier. Ça m'a donné l'idée de me former. Voilà. Puis je me suis ensuite formée aussi à la biographie.
Alors, peux-tu nous en dire plus sur ces activités ? À qui elles s'adressent ? Comment tu trouves tes clients ? Comment ça se passe ?
Alors, d'abord, les ateliers d'écriture, j'en anime en médiathèque. D'abord à Tréfort, parce que là, c'est là que toute l'histoire a commencé. Donc, j'ai un groupe de fidèles où j'anime des ateliers quasiment tous les mois depuis maintenant 2 ans. Presque plus que ça même, 3 ans presque. Et puis dans d'autres médiathèques qui me proposent d'intervenir et d'animer des ateliers. Puis j'anime aussi beaucoup d'ateliers d'écriture auprès des personnes âgées, dans des résidences, dans des MARPA et dans des résidences autonomie. Un public que j'affectionne beaucoup, avec qui j'anime ces ateliers d'écriture pour beaucoup inventer des histoires. Et puis du fait de ma formation de biographe aussi, j'accompagne des particuliers dans leur récit de vie, souvent des personnes qui ont envie de transmettre leur histoire pour leur famille. Et lors d'entretiens que nous avons, ils déroulent leur vie. Moi, j'écris, j'écoute, j'enregistre aussi. Et d'un rendez-vous sur l'autre, l'histoire de la personne se déroule. Et ce sont des entretiens très intéressant. On rentre en profondeur dans la vie des gens, dans les détails, les choses du quotidien. Voilà, ce sont mes deux principales activités.
Alors, tu nous as parlé d'ateliers en médiathèque. Ça s'adresse à qui ?
Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse, je peux faire des ateliers pour les adultes et les ados. Il m'est arrivé aussi de faire des ateliers pour les enfants. Alors, ça n'a évidemment rien à voir avec de l'écriture où on apprend à écrire, où on est dans l'orthographe, la grammaire, le stylo rouge et les mauvaises et les bonnes notes. Ça n'a strictement rien à voir. On est vraiment dans un temps de partage où on laisse filer la plume suite à des propositions d'écriture que je fais, où c'est l'imaginaire qui s'envole et les personnes se mettent à écrire et peuvent, si elles le souhaitent, partager leurs textes en les lisant à haute voix, parce que ça c'est aussi un moment très important dans mes ateliers, autour d'un thème en général que je choisis.
Justement, quel thème tu as pu proposer jusque-là ?
Il y en a eu beaucoup. Le dernier, c'était hier, jour de la Saint-Valentin. J'ai proposé un atelier sur l'amour. C'était à la médiathèque de Marbeau, avec des ados et des adultes. C'était vraiment très simple. On a fait des tours du monde, on a fait des premières fois, on a fait la couleur bleue, on a fait la nature, les arbres, les animaux, les chats, des choses, l'instant présent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de thèmes depuis que j'ai commencé. J'essaye à chaque fois de faire des choses assez diversifié, parfois de rattacher ça à l'actualité, sans doute du fait un peu de mon métier d'avant, souvent je pense à ça, et puis surtout de lectures que je peux avoir faites, qui me donnent des idées, de phrases que j'ai vues arriver, de chansons que j'ai entendues, peut être sujet à atelier d'écriture.
Ça dure combien de temps ces ateliers d'écriture ?
Alors en médiathèque ce sont des ateliers de 2 heures, que je propose au tarif de 20 euros quand les personnes me payent moi directement. Et puis après, ce sont des ateliers qui, s'ils sont financés par les structures et les médiathèques, sont gratuits pour les participants.
Et un atelier d'écriture, ça regroupe combien de personnes ?
Alors en moyenne, on est autour de 8 personnes. C'est le chiffre le plus confortable. Après, s'il y a moins d'inscrits, on est moins. Et puis, il m'est arrivé de monter jusqu'à 10 personnes. Et puis, il m'arrive aussi, suivant la demande, d'ajouter une partie créative pour pouvoir, des fois, proposer quelque chose à la fin de l'atelier que les gens puissent voir en se baladant, par exemple, à la médiathèque, en la visitant. Ils peuvent découvrir un petit peu le fruit de l'atelier. Par exemple, hier, pour toujours reprendre l'exemple de la Saint-Valentin, chacun a créé une carte où il est venu déposer son texte et puis est venu y mettre un peu de décoration dessus. Et voilà, ça permet aussi de montrer aux gens que l'écriture est accessible par tout le monde, qu'on ait l'habitude d'écrire ou pas, même si souvent beaucoup de gens arrivent avec des freins en disant « moi j'ai jamais écrit, je ne sais pas écrire », eh bien si, on peut écrire, il n'y a pas de problème et l'écriture est accessible par tout le monde.
Alors nous avons le chat de la maison qui nous a rejoint, qui est très intéressé par ce que l'on fait. Comment s'appelle-t-il ?
C'est une femelle, elle s'appelle Neige. Et effectivement, elle se demande un peu ce qu'on est en train de trafiquer avec tous ces fils sur la table dans la véranda où normalement elle aime venir se poser.
Donc si vous entendez des petits bruits, des petits miaulements, ne soyez pas étonnés. C'est le chat de la maison, c'est Neige, qui porte bien son nom puisqu'elle est toute blanche, avec un œil vert et un œil bleu. Elle est très belle. Alors on revient sur les ateliers d'écriture. Est-ce que tu as des fidèles maintenant qui reviennent d'un atelier à l'autre ?
Oui, il y en a qui sont là depuis le début. Et même d'ailleurs des personnes qui au départ y allaient sur la pointe des pieds et qui sont là toujours et qui, je crois, depuis, grâce à l'écriture, ont pris confiance en eux sur le fait de pouvoir y arriver, de pouvoir partager. Et sont beaucoup plus à l'aise qu'avant. Et c'est un peu une sorte de rendez-vous. Il y en a qui vont faire de la gym ou du dessin régulièrement. Il y en a qui vont faire des ateliers d'écriture régulièrement. Voilà.
Et est-ce que tu as des petites anecdotes ou des petits retours qu'on t'a fait qui illustrent le bienfait, le bénéfice que ces personnes peuvent retirer de ces moments ?
Alors, pour les ateliers que j'ai animés en médiathèque, je me rappelle une fois pour Noël, j'avais proposé là d'écrire sur des souvenirs de Noël de quand on était enfant. Et j'ai proposé à la fin, j'ai remis un petit carnet et j'ai proposé à certaines personnes de déposer leur texte sur ce petit carnet que je leur avais préparé pour qu'ils l'offrent à quelqu'un de leur famille et que ce soit leur cadeau de Noël. Et je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Et ça a été des grands moments d'émotion. Je me rappelle notamment d'une personne qui a offert ça à sa maman et lui a raconté comment elle avait vécu ses Noëls quand elle était enfant. Et c'était, je crois, un très beau cadeau qu'elle avait pu lui faire.
Ouais, ça doit être un chouette cadeau très émouvant. Je reviens également sur les personnes âgées. Comment elles perçoivent ces ateliers que tu leur proposes ?
Je crois que c'est une petite bulle une parenthèse, une bulle de plaisir. En tout cas, moi, je les conçois comme ça. Beaucoup de gens me disent, quand je parle de ces ateliers d'écriture auprès des personnes âgées, ils me disent toujours « Ah, tu dois leur faire parler de leurs souvenirs, de leur vie d'avant et tout ». Eh ben non, pas tellement en fait. Parce que pour moi, quelqu'un qui a 80 ans, c'est quelqu'un qui a 4 fois 20 ans. Et c'est juste quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi et qui a comme moi... besoin de vivre le moment présent, qui a besoin de rire, qui a besoin de partager. Donc en atelier d'écriture, avec les personnes âgées, je fais beaucoup d'écriture autour de l'écriture créative, autour de l'invention d'histoires, d'écriture de textes, de poésie avec des rimes. On a écrit aussi des chansons très drôles. Les ateliers d'écriture auprès des personnes âgées, on rigole beaucoup. C'est vraiment des moments où on rigole beaucoup, avec aussi des moments d'émotion parce que certaines quand même reviennent à leur histoire et c'est l'occasion pour les personnes âgées aussi de faire connaissance parce qu'à travers leurs écrits, elles se dévoilent et là aussi, ça a laissé des fois des très beaux souvenirs. Je me rappelle notamment une fois les avoir fait écrire sur des objets qui leur appartenaient, qui disaient quelque chose d'eux. Et là, il y en a qui ont raconté de très belles histoires qu'ils avaient avec des objets qui étaient souvent dans leur chambre et qu'ils avaient amenés sur la table. Et ça a permis de raconter des histoires, de mieux se connaître. Et ça m'a permis aussi une fois, puisqu'il y avait une résidente avec qui j'avais fait des ateliers déjà depuis un moment, dans un groupe qui n'était pas très grand et qui est décédée. Et j'ai pu remettre à sa fille des textes qu'elle avait écrits en atelier d'écriture, et notamment où elle racontait l'histoire du chemin qui l'amenait à l'école quand elle était enfant. Un atelier qu'on avait fait une fois ensemble au moment de la rentrée. Et donc j'ai pu remettre plusieurs textes, dont celui-ci, à sa fille. Et je sais que pour elle, ça a été aussi un très beau cadeau. Et c'est là, vraiment, quand je vis ces moments-là, je me dis, tu t'es pas trompé de chemin. Et ces ateliers, c'est vraiment mettre de l'humanité au milieu de tout ça.
Oui, c'est très beau. J'imagine toute l'émotion qui a été partagée à ce moment-là. Je me pose une question par rapport à ces personnes âgées. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres animations qui leur sont proposées, ou est-ce que dans les zones rurales dans lesquelles on vit, on manque de propositions d'animations?
Alors ça, c'est aussi ce que j'ai découvert en allant dans ces structures. Je trouve que non, il y a beaucoup de propositions. Elles ont beau être, pour beaucoup de ces structures au milieu de la ruralité, il y a quand même des aides beaucoup qui sont apportées, notamment par le département, pour pouvoir animer ces lieux de vie. Et vraiment, je trouve que c'est bien, parce que beaucoup d'entre elles ne sortent pas, n'ont pas la possibilité d'aller voir à l'extérieur, de rencontrer d'autres personnes. Et toutes ces animations qui sont proposées ou ces propositions qui sont faites, ça leur permet aussi d'ouvrir des fenêtres sur l'extérieur, même si ce sont des fenêtres virtuelles, ce sont quand même des belles échappées qui leur sont proposées. Et oui, il y a des activités, et du coup, elles permettent de raisonner, je pense, différemment et de nourrir un peu intellectuellement, mais aussi dans ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, de leur mettre aussi du baume au cœur dans des journées qui peuvent être, à mon avis, parfois un peu longues.
Question que je me posais également, c'est combien es-tu prête à faire de kilomètres pour animer des ateliers d'écriture créative?
Depuis que mon activité a été créée, je vois que les kilomètres, le cercle s'agrandit. Mais c'est normal, le département de l'Ain est un grand département, et pour l'instant, en tout cas, j'ai toujours du mal à dire non aux propositions qui me sont faites, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à proposer ce que je fais. Donc j'habite à Tréfort, mais j'ai déjà des propositions qui m'emmènent jusque sur Châtillon, donc un peu plus loin. Je vais en avoir peut-être aussi du côté d'Ambérieu. J'ai un cercle qui s'agrandit pour l'instant.
Alors je précise pour l'auditeur, on parle d'Ambérieu en Bugey et de Châtillon sur Chalaronne, et pour chacune de ces deux villes, ça représente au moins bien 30 à 40 km de distance.
Châtillon, d'ici, il y a 3/4 d'heure de route, oui.
Donc, voiture obligée.
Ah oui, voiture obligée, mais en même temps, ça fait partie des choses que j'aime bien aussi. Prendre ma voiture et justement aller sillonner les routes de campagne, prendre le temps, les petits chemins, et de me dire que au bout du chemin, il y a cet atelier qui arrive, avec des fois des lieux que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas. Et des fois aussi des histoires de villages que je ne connais pas, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, notamment auprès des personnes âgées, c'est que on est sur des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup voyagé, qui sont beaucoup restées dans leur secteur, et qui arrivent dans leurs histoires avec tous leurs souvenirs du coin, tous leurs souvenirs ou de la Bresse ou du Revermont. Et ça, c'est aussi sympa à partager pendant les ateliers d'écriture.
Et que fais-tu de toute cette production? Est-ce que tu les compiles, ou tu laisses repartir les gens avec, et du coup, il n'y a pas d'archives? Comment tu procèdes à ce niveau-là?
Dans les médiathèques, en tout cas très fort, quasiment tous les ateliers font l'objet d'une exposition ensuite, puisque la médiathèque de Tréfort, suite à une convention que j'ai signée avec la mairie, me met à disposition la médiathèque pour faire mes ateliers. Donc pour moi, c'est précieux, parce qu'évidemment, quand on commence, toutes les économies sont bonnes à prendre. Et puis, je trouve ça sympa d'avoir ce soutien aussi de la commune dans laquelle j'habite. Et en contrepartie, du coup, il y a une exposition des textes qui me va très bien d'ailleurs. Donc ça, c'est fait régulièrement. Dans les médiathèques où j'interviens aussi, ben, on fait en sorte de pouvoir garder aussi une trace des textes qui sont produits. Donc ça, ça reste aussi. Et auprès des personnes âgées, je les garde. Au moins, je prends le temps de recopier les textes si je ne peux pas garder l'original. Mais j'en garde beaucoup, beaucoup parce que je propose aussi en fin d'année à la structure de faire une présentation comme une petite exposition aussi des textes, notamment pour les familles qui voient du coup et qui sont des fois très étonnées de ce qui est produit. Enfin voilà, et ça fait l'objet après de discussions, c'est ça qui est riche. Et puis ça permet aussi aux financeurs qui financent ces ateliers de voir ce qui est produit, de voir ce qu'on fait et puis de pouvoir échanger aussi autour de ça. C'est des moments aussi d'échange qui sont importants.
Connais-tu des consoeurs qui font le même métier que toi au niveau des ateliers dans le secteur, en local, dans le département de l'Ain?
J'en connais, pas que je rencontre, je connais des noms, des personnes que j'ai eues au téléphone, notamment une personne avec qui je me suis formée à l'animation d'ateliers d'écriture, mais qui est du côté de Belay et que j'ai de temps en temps au téléphone ou par écrit, mais que je n'ai pas eu, que je n'ai pas croisé. Des fois, ça me manque parce que je trouve que ça me permettrait aussi de nourrir ma pratique, de faire des échanges, de pratique. Alors, je pourrais le faire avec des groupes, même au niveau de Paris, puisqu'il existe des regroupements d'animateurs d'ateliers d'écriture, d'animatrices surtout, et puis de biographes. Je privilégie toujours la proximité, j'avoue que je ne suis pas allée dans ces réseaux. Par contre, j'ai des contacts très réguliers avec notamment deux personnes, dont une qui fait le même métier que moi et qui est formatrice en plus, et elle se trouve à La Réunion. Il s'agit des personnes que j'ai rencontrées au tout début, avant que je me mette à mon compte. Elles ont toutes les deux créé un groupe où elles ont monté des ateliers d'écriture. Et je corresponds avec elles très, très régulièrement. D'ailleurs, j'ai encore une visio avec l'une d'entre elles demain parce que nous allons travailler sur le projet d'un jeu autour des livres, des lettres, des mots qu'on pourrait peut-être après proposer dans les médiathèques pour aussi continuer à faire virevolter les mots et les lettres d'une autre manière. Et nos échanges sont toujours très riches parce qu'on échange aussi sur des livres, des ouvrages, des expériences, des retours d'expérience. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, voilà.
Alors je parlais de consoeurs, mais bien entendu, il peut y avoir également des confrères.
C'est quand même un métier qui est très, très féminin, hein, quand même.
Oui, c'est pour ça que d'emblée, j'ai pensé plutôt à consoeur que confrère, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'hommes sur ce type de métier. Est-ce qu'on peut dire que les lettres font les liens? Tu parlais de lettres tout à l'heure, et on est donc dans une zone où les gens sont plutôt habitent de manière un peu espacée les uns des autres. Est-ce que, du coup, ces ateliers permettent de créer du lien ou du moins de les rapprocher?
Je crois que oui, parce qu'à partir du moment, notamment dans les ateliers où on se livre un peu dans ses écrits, qu'ils soient imaginaires ou qu'ils reflètent un petit bout de notre vie, peu importe, de toute façon, on peut écrire ce qu'on veut, et puis tout ce qui se dit et se lit en atelier reste en atelier. Mais oui, je crois que les personnes qui y participent ensuite restent en contact, on s'étend en commun, on se goûte des mots en commun aussi, et puis après elles peuvent en général, surtout je vois sur Tréfort, c'est un village qui n'est pas très grand, c'est aussi du coup un début de lien qui se fait entre les personnes.
Est-ce que tu as pu remarquer quel type de personnes s'intéressaient à ces ateliers? Par là, je pense par exemple aux nouveaux habitants qui justement cherchent à rencontrer les autres habitants, ou au contraire, ce sont plutôt ceux qui connaissent déjà bien le village, qui se retrouvent entre eux et qui ne laissent pas forcément de place à de nouvelles personnes?
Alors, je te dirais bien les deux. c'est l'avantage aussi, c'est qu'il y en a qui reviennent, mais il y a toujours des nouveaux qui arrivent, des personnes que moi, je peux rencontrer au travers d'activités et qui, du coup, ont envie d'essayer. Des fois, il y en a qui viennent une fois, puis on ne les voit pas pendant un moment, puis elles reviennent. Il y a un mélange de retraités, d'actifs. Alors, il y a encore là une majorité de femmes plutôt. Il y a de tout. Des gens à très fort, il y a des gens qui étaient arrivés, qui sont arrivés dans les ateliers, qui n'étaient pas là depuis très longtemps, et à qui justement ça a permis de faire connaissance avec des personnes du village. C'est très diversifié. Et puis j'ai des ados aussi qui viennent de temps en temps. Donc des fois, ces mélanges de générations sont aussi très intéressants dans les textes, parce que pour une même proposition d'écriture, déjà, tous les textes sont différents en fonction des gens, mais si en plus, il y en a qui ont 15 ans et puis il y en a qui ont 80 ans, et ben ça fait aussi quand même différentes tonalités.
Du coup, ça rapproche les gens géographiquement, mais aussi au niveau des générations.
C'est ça, c'est comme tu le disais, ça fait le lien, l'écriture fait le lien entre les gens et oui, il n'y a plus de barrière en fait, il n'y a pas de barrière sociale non plus, parce que l'écriture, c'est un moment aussi d'intimité avec soi, il y a le geste d'écrire qu'on retrouve et qui malheureusement tend à disparaître et que les gens apprécient aussi, reprendre un stylo, une feuille et noircir un papier, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Et quand on est dans l'écriture, il n'y a plus de notion de couche sociale, de retraité, d'actif, d'âge, on se retrouve dans les mots. On se retrouve dans les émotions, on se retrouve dans des expériences partagées, dans des émotions partagées, dans des imaginaires. Et les ateliers sont toujours vraiment des moments qui se font dans le respect de chacun. Et pour ceux qui me disent souvent avant de commencer, qui arrivent avec des freins en disant « ouais, moi je ne sais pas écrire, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas… » Et à chaque fois, j'essaye de les mettre à l'aise en leur disant qu'il n'y a pas d'histoire de beaux textes, de moins beaux textes, mais que de toute façon, tous les textes sont beaux puisqu'ils viennent de soi. Donc, à partir du moment où c'est son texte, il est beau.
Ouais, on tombe un peu les masques. Il n'y a pas de mensonge. C'est l'authenticité pure. Ouais, c'est très beau ce que tu viens de dire. Ça me touche. Alors, je change un tout petit peu de sujet. On avance un petit peu. Pour toi, quel avantage tu vois à être en zone rurale pour exercer ton métier ?
Alors moi déjà, je crois que dès le départ, quand je l'ai créé cette activité, j'avais envie d'aller dans la ruralité. Alors j'y habite déjà, donc je m'y sens bien, mais j'avais aussi envie de proposer dès le départ d'aller vers des structures qui étaient dans la ruralité. J'aurais pu très vite me tourner vers Bourg, par exemple, Bourg-en-Bresse, qui n'est pas très loin, mais bon, d'une, je crois qu'il y a déjà des propositions dans ce sens. Et puis, moi, j'avais envie d'aller vraiment au plus près des gens. Et j'avais envie, du coup, d'aller dans la ruralité où il y a moins de barrières, on est moins nombreux. Les choses, quand on rencontre quelqu'un, on est vraiment dans une vraie rencontre. Voilà. Et puis, ça permet aussi d'avoir, comme je disais, des identités différentes suivant les villages dans lesquels on va, suivant les histoires de ces villages. Il y a beaucoup dans les groupes, par exemple, de personnes âgées que je vois, des anciens agriculteurs ou agricultrices, donc des gens de la terre, donc qui apportent aussi vraiment des belles histoires. Et on ne peut pas se mentir, on ne se ment pas, là on y est les mains dans la terre des fois, même en tenant le stylo. Enfin voilà, c'est quelque chose de fort. Et moi, je me retrouve bien dans cet espace-là, le fait de prendre le temps. Oui, tu parlais de la voiture tout à l'heure. Moi, j'aime ce temps d'aller d'un point A à un point B et d'aller moins vite, peut-être que si j'étais en ville où je serais sans doute dans les transports en commun avec plus de monde.
Sous la terre, en métro.
Voilà, ça là, sous la terre, en métro, ne voyant pas forcément la nature, les saisons, les changements de saison qui, des fois, justement, m'inspirent les ateliers d'écriture. La nature m'inspire beaucoup d'ateliers d'écriture, donc quand on est au milieu, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis ça parle aux gens, voilà. Et puis je crois aussi que la ruralité, ça permet. Moi, j'avais aussi envie d'amener l'écriture et à travers elle la culture, parce que je viens toujours avec des livres, je viens avec textes. Moi, j'aime lire à haute voix, donc souvent je leur partage des textes à haute voix. Souvent, ils les lisent avec moi, et je trouve qu'on habite à la campagne ou à la ville, on a tous le droit d'avoir accès à la culture de la même manière. Et moi, en ayant créé l'atelier du porte-plume et ces ateliers d'écriture un peu partout où on me demande d'aller, c'est aussi d'amener cette culture au plus près des gens, où qu'ils soient. Et ça me convient parfaitement.
Une question qui me vient à l'instant, quelle est la plus petite commune dans laquelle tu interviens ou la plus petite structure de personnes âgées ?
Alors, j'interviens dans une résidence Essor qui se trouve à Saint-Étienne-du-Bois, où il y a 6 personnes. Voilà, et du coup, il y a une très grande qualité d'échange parce qu'ils sont, ils sont peu nombreux. Et c'est d'ailleurs dans cette résidence que t'es décédée la personne, c'était avant l'été. Et du coup, ça a été très fort parce que, alors, il y a les textes que j'ai pu donner à sa fille, mais il y a aussi... j'ai là été confrontée pour la première fois à comment je vais animer dans ce groupe qui était déjà pas très nombreux, mais qui va être moins nombreux et où tout le monde va penser à celle qui n'est plus là. Et je ne peux pas faire comme s'il ne se passait rien, je ne peux pas arriver comme ça, comme si voilà, on allait faire un atelier lambda. Et donc je leur ai fait une proposition, l'atelier qui a suivi son décès, j'ai posé sur la table une nappe blanche. Je leur ai donné des crayons de couleur parce que je donne toujours des crayons de couleur dans mes ateliers d'écriture. Et je ne fais pas écrire sur des feuilles blanches, normalement. Mais là, c'était une nappe blanche quand même. Et ils se sont chacun emparés de stylos et je leur ai demandé sur cette feuille blanche d'écrire des souvenirs qu'ils avaient avec elle, les mots qui leur revenaient, les expressions, et puis même de dessiner, voilà. Et... on a créé comme ça une grande banderole autour de cette personne en écrivant en gros son prénom au milieu, toujours en lettres de couleur. Et en fait, ça leur a fait beaucoup de bien. Ça leur a fait remonter des souvenirs, pour certaines des larmes, d'autres des fous rires aussi, parce qu'elle était très drôle. Et ils ont depuis affiché ce bout de nappe sur le couloir de la résidence. Il est toujours là. Ils passent devant tous les jours et ça leur a fait du bien d'écrire tout ça et je crois que ça leur fait du bien de lire aussi. Elle est toujours là, du coup, présente à travers ses mots. Et voilà, ça a été aussi la force de ce petit nombre de personnes, de ce petit groupe.
Ouais, c'est une très belle histoire. Alors, rebondir après ça, c'est pas évident. Mais voilà, le temps passe malgré tout, même si le podcast... c'est le plaisir d'avoir le temps d'évoquer les choses. On va rentrer dans la question de la communication en zone rurale. Quand on démarre une activité, il faut se faire connaître, il faut se rendre visible. Comment, toi, tu t'y es pris pour faire savoir que tu proposais ces services?
Je crois que chaque personne que j'ai dû croiser sur ma route, j'ai dû lui en parler. Déjà, voilà, je crois déjà voilà, la force des discussions entre les personnes, du bouche à oreille, voilà. Donc, puis je pense que quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on essaye d'en parler le mieux qu'on peut. Donc, des fois, il y a des choses qui passent déjà. Donc, j'ai beaucoup parlé. Après, je suis allée faire ma prospection en allant frapper à des portes, envoyer des mails, rappeler au téléphone, venir présenter ce que j'avais fait. J'ai écrit des supports, bien sûr. Le contraire aurait été embêtant quand même. Mais j'avais des supports d'écrit voilà, que je pouvais présenter pour expliquer mon activité. Donc pour les ateliers, j'ai fait comme ça. Et puis pour les biographies, j'ai eu la chance un jour d'avoir un article dans la presse qui a permis d'avoir une visibilité. Et une fois, une épouse d'un monsieur qui m'a appelée et qui a voulu offrir ça à son mari avec ses enfants. Et donc c'est comme ça que la première biographie est née. Voilà, et puis les autres qui sont depuis là, c'est du bouche à oreille, voilà, le bouche à oreille fonctionne aussi. Et puis après, j'ai une page Facebook, l'atelier du porte-plume, que j'essaye d'alimenter le mieux que je peux, voilà, pour un peu raconter ce que je fais dans mes ateliers, et voilà, montrer, partager des émotions, voilà, donc voilà, par la page Facebook. Et puis un peu LinkedIn aussi, enfin voilà, tout ça prend aussi beaucoup de temps quand on est tout seul, voilà, ça prend beaucoup de temps, mais je pense aussi que c'est nécessaire. Mais je pense que voilà, la première des forces en fait, c'est de parler de ce qu'on fait, d'en parler avec passion, mais je crois que c'est comme ça. Et puis de répondre à des propositions comme la tienne, qui sont super sympas, voilà, et d'essayer des choses, peut-être des fois ça marche, puis des fois ça marche pas, mais... Et puis j'avais aussi participé à un salon, le salon Essentiel, l'année dernière à Bourg. Ça aussi, ça avait été une très très belle expérience d'animer des ateliers d'écriture dans ce salon. Voilà, même si ça n'a pas forcément toujours suivi derrière, mais moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir le proposer. Et après, le temps va faire son œuvre.
Il est en train de le faire, manifestement. Tu dirais donc que c'est avant tout le bouche-oreille qui aurait marché. Tu parlais également de la presse. Est-ce qu'en zone rurale, on est plus attentif à lire la presse locale ? Toute parution a plus de portée.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, ayant travaillé pendant 25 ans au Progrès, donc, qui est un titre de la presse quotidienne régionale, où de nombreuses pages de locales sont visibles grâce au travail des correspondants de presse qui sillonnent le territoire tout le temps. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs depuis mon activité, le début de mon activité qui ont été super et qui, quand je venais faire une intervention dans une médiathèque ou dans une résidence, étaient là, sont venus, du coup c'était un peu l'arroseur arrosé. et du coup il y a des correspondants qui sont venus, qui m'ont pris en photo, qui m'ont posé des questions, et ça m'est arrivé plusieurs fois, et encore hier à Marbeau par exemple, voilà, il y a un correspondant que j'avais très souvent avant au téléphone et qui est venu pour faire un article. Et oui, il y a la force aussi de la presse quotidienne régionale qui est très implantée en milieu rural, qui me fait évidemment cette belle visibilité. C'est un peu un mélange de tout ça.
Écoute, cet échange est vraiment très riche et très touchant. J'aurais une dernière question avant de terminer. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais changer sur un territoire rural pour que on puisse encore plus resserrer les liens entre les gens, plus les relier ? Sacrée question.
Oui, sacrée question. Ce serait bien si les gens se remettaient à écrire. Comme ça, on pourrait peut-être mettre en place des systèmes d'échange de courriers, même d'un village à l'autre, d'une structure à l'autre, de faire... à défaut de faire des jumelages, on pourrait faire des correspondances d'un village à l'autre, ça relierait les gens, ça ferait travailler la poste, ça remettrait au coup du jour les stylos plumes peut-être, les encres violettes peut-être, on ne sait pas, mais voilà.
Les papiers buvards.
Non, sans revenir forcément dans le passé, mais bon, c'est vrai que si davantage de personnes reprenaient la plume ou le stylo bille et prenaient le temps de se poser sur une table et laisser de côté leur téléphone portable, le mettre en mode off et prendre ce temps de connexion qu'on a avec l'autre au moment où on écrit, ça pourrait être bien ça.
Et c'est l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter quand on le veut et donc on peut trouver le temps d'écrire à côté. Mais en plus, j'avais une réflexion comme quoi on n'est pas obligé d'habiter très très loin les uns des autres pour correspondre. On peut effectivement correspondre d'un village à l'autre. Chaque village, on le constate quand on habite, a sa propre histoire, plein de choses à découvrir. Et c'est ça qui est vraiment enrichissant et fascinant. Quand on est en zone rurale, on a l'impression que rien ne se passe, rien à voir, rien d'intéressant à découvrir. Or, il y a encore plein de choses à voir, à rencontrer, des personnes qui ont des mémoires fabuleuses, des histoires fabuleuses.
Dans chaque village, il y a des belles histoires, de toute façon, parce que de toute façon, les histoires de vie, on n'a pas besoin d'avoir fait des choses extraordinaires pour avoir des belles histoires à raconter. En tout cas, en biographie, c'est ça que je mets en avant quand les gens me disent « Oh, mais moi, j'ai pas une vie intéressante. » Mais si, toutes les vies sont intéressantes, de la même manière, parce que c'est la vôtre.
Eh bien, sur ces mots, je vais te remercier, Gaëlle. C'était vraiment chouette comme échange. J'espère que toi, auditeur, tu prendras autant de plaisir que nous à écouter ce podcast. Et bien, je te dis au revoir et puis à bientôt.
À bientôt, merci Gaëlle.
Au revoir. C'est ainsi que ce podcast s'achève. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous donne envie d'en parler autour de vous, de le partager. Rendez-vous dans un mois pour découvrir le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez consulter mon site www.glc-6com.com/podcast. Ma page est dédiée aux notes, backstage, infos inédites sur ce podcast. À très bientôt.